Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On longe une frontière sur RTL, mais pas n'importe laquelle, la fameuse frontière américano-mexicaine. Donald Trump a promis d'y dresser un mur. Mais est-ce vraiment possible et quelles conséquences pour les habitants de cette région? Stéphane Loignon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Ravi de vous retrouver au micro de la curiosité.
Vous n'auriez pas un peu un rond de serviette dans la curiosité? Vous étiez déjà là,
c'était quand? C'était lundi. Non, on n'avait pas fait la vaisselle l'autre jour.
Désolé.
Vous êtes reporter journaliste pour le Parisien Magazine aujourd'hui en France et vous êtes allé sur place à quel endroit très précisément?
Eh bien, je suis allé à Brownsville, qui est au sud-est du Texas, juste à côté du golfe du Mexique et puis vraiment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Alors, on va tout reposer, on va repartir du début. Pourquoi Donald Trump veut-il construire un mur?
Alors, il a promis pendant sa campagne de construire un grand, grand mur qui, pour protéger la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui fait 3200 km de long, qui est très, très grand, et par laquelle passe énormément de trafic de drogue, mais aussi beaucoup de passages clandestins d'immigrants.
Donc, il imagine, il y a 3200 km de frontière, il imagine un mur de la même taille?
Voilà, lui, il a trouvé une solution simple. En tout cas, il a été persuadé que c'était simple, c'était de construire un grand mur, et puis voilà, le problème de l'immigration et de la drogue serait réglé. Malheureusement, on va voir que c'est pas si facile que ça.
Mais d'ailleurs, vous montrez dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France une photo de campagne de Donald Trump quand il avait brandi un dessin d'un mur avec un mirador. En plus, on a l'impression que c'est une prison qu'il décrit sur ce dessin. Mais
c'est,
bon.
C'est très étrange et puis ça montre bien le simplisme de la solution par rapport à un problème qui évidemment est bien plus complexe.
Et oui, et ça l'a fait gagner malgré tout, ne l'oublions pas. Il serait donc haut de 9 mètres, c'est ça?
Voilà, alors il avait promis au départ que ça serait haut de 10 à 13 mètres et puis finalement il a dû se tempérer un peu ses ambitions et là la demande qui a été faite à l'administration c'est de faire bâtir un mur de 9 mètres de haut.
Est-ce qu'il serait le même, ce mur, des deux côtés? C'est-à-dire qu'il aurait le même look, si j'ose dire, côté mexicain et côté américain?
Eh bien, alors l'administration a établi un cahier des charges pour un appel d'offres auprès de différentes entreprises qui vont donc proposer des modèles. Et elle a spécifié dans ce cahier des charges que le mur devait être beau, esthétique, en tout cas esthétique, au côté nord, donc côté américain. Mais après, le problème, c'est qu'en fait, au côté sud, il est bien probable aussi que parfois le côté sud soit encore sur le territoire américain, parce que par exemple au Texas, la frontière est un fleuve. On peut pas mettre un mur sur le fleuve, il faut bien le mettre sur la terre, donc ce sera côté américain. Et ceux qui seront côté américain mais au côté sud du mur, bah, ils auront peut-être un mur moche.
Et cet appel d'offres a été donc lancé en mars. Est-ce qu'il y a déjà des prototypes qui ont été présentés, des bouts de mur? Ça paraît fou, mais...
Alors pour l'instant, on ne les a pas vus, mais il y a eu donc cet appel d'offres présenté en mars. 700 entreprises qui ont répondu, donc en proposant différents concepts de murs, et une vingtaine qui ont été sélectionnées. Mais pour l'instant, l'administration n'a pas dévoilé le nom des sociétés, ni les types de murs qui sont envisagés.
Alors Stéphane Loignon, vous êtes rendu à Brownsville, au Texas, le Texas qui est directement concerné par ce mur. Pour quelle raison?
Mais le Texas, c'est à peu près la moitié de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc il y a à peu près 1600 miles. De frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et ce qui est intéressant au Texas, c'est que donc c'est toute la frontière qui est séparée par le Rio Grande. Donc c'est ce fleuve qui sépare les deux pays. Mmh. Et une large partie de cette frontière-là n'est pas vraiment protégée. Donc il suffit de traverser le Rio Grande pour arriver aux États-Unis. D'ailleurs, le Rio Grande, on pense parfois que c'est un fleuve immense, mais en vérité, je l'ai vu à plusieurs endroits à Brownsville. Parfois, ça fait 5 mètres ou 10 mètres de large.
Donc c'est une des zones de porosité, on va dire, entre les deux pays. Les habitants du Texas et de cette région, qu'est-ce qu'ils en pensent du mur? Ils en veulent?
Alors, pas vraiment. C'est là que c'est un peu surprenant, puisque le Texas, c'est un État qui est très républicain, très pro-Trump. Mmh. Et on se rend compte dans les sondages qu'il y a plus de 2/3 des Texans qui sont défavorables à cette idée de mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent, eux habiteraient près de ce mur, et ils savent que c'est pas une solution qui réglerait vraiment le problème ni de l'immigration ni de la drogue.
Vous êtes parti rencontrer certains de ces habitants. On va faire leur rencontre dans un instant, dans la curiosité. À tout de suite!
Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est une promesse de campagne de Donald Trump qui a fait la une de l'actualité il y a quelques mois. Et puis on l'a un peu oublié. Et nos confrères du Parisien Magazine aujourd'hui en France ont eu la bonne idée d'aller voir ce qu'il se passait à la frontière entre le Texas, les États-Unis et le Mexique, si ce fameux mur promis par Donald Trump était en cours de construction. Et cet article à lire dans le Parisien Magazine est en partenariat avec RTL. Vous avez, Stéphane Loignon, évidemment rencontré des Texans. Vous nous disiez qu'ils étaient majoritairement, même très majoritairement, défavorables à ce mur. Tiens, par exemple, Rusty Monsies. Alors, qui est-il et que pense-t-il du mur de Trump?
Bah là, c'est le cas typique un peu paradoxal qu'on peut voir sur place. Donc, c'est Rusty Monsies, c'est un fermier qui a 68 ans, qui vit à la frontière, qui est hyper pro-républicain, qui adore Trump. Mais il est très sceptique sur cette idée de mur. Il est persuadé que ça servira à rien. Et lui en sait quelque chose puisqu'il a une ferme qui borde le Rio Grande, donc vraiment de l'autre côté de la rivière, c'est le Mexique, donc à une dizaine de mètres de chez lui. Et sa ferme, en plus, est traversée déjà par une grande barrière qui est supposée protéger l'entrée des États-Unis. Barrière qui était un peu le projet antérieur à celui du mur de Trump, mais qui a déjà montré toute son insuffisance.
Qui l'avait instauré, cette barrière ?
Alors, c'est l'administration Bush qui, fin 2006, avait fait voter un projet de barrière à peu près sur un tiers de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Mais, elle ressemble à quoi, cette barrière ? Vous pouvez nous la décrire ?
Elle fait à peu près 5 mètres de haut. Donc, c'est-à-dire, elle est déjà immense. Il faut imaginer quand même que voilà, le Rusty, quand il se tient à côté, la barrière fait 5 fois sa taille ou presque.
Il y a une très belle photo dans votre Parisien Magazine aujourd'hui.
À l'échelle, on voit qu'effectivement, elle est grande, cette barrière.
Elle est très grande. Elle est un peu rouillée parce qu'en plus, elle n'a pas été repeinte. Donc, elle a cette couleur un peu ocre, rouge, rouille. Quoi. Et ce qui est marrant en plus quand on la regarde, c'est qu'au milieu, il y a une espèce de planche intermédiaire qui a été mise pour accrocher les barreaux entre eux, mais qui en fait facilite beaucoup l'escalade pour les immigrants quand ils passent par-dessus
la barrière. Elles ont été placées, ces barrières, à des endroits supposés stratégiques, c'est ça ?
Voilà, alors elles ont été placées surtout dans les grandes villes frontières entre les États-Unis et le Mexique, donc par exemple Brownsville, mais aussi El Paso. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sort un petit peu de ces villes-là, on voit que la barrière s'arrête assez vite. Par exemple, à Brownsville, on a vu l'endroit où commence la barrière, c'est au milieu d'un champ. Donc c'est très bizarre, il y a une partie du champ, il y a la barrière, l'autre partie, il n'y a pas la barrière. Oui. Rien de spécial, donc on voit vraiment l'absurdité du tracé de cette barrière.
Donc il y a 1000 km de cette barrière en métallique.
Voilà, 1000 km sur 3200, mais 1000 km non pas continus, mais par petits bouts, donc avec des trous un peu partout.
Des pointillés.
Et alors c'est évidemment passionnant d'aller chercher les solutions proposées par ceux qui vivent dans la région. Ce Rusty Monsies, qu'est-ce qu'il propose ? C'est quoi son idée pour garder la frontière ?
Alors lui, il veut tout simplement plus de gardes frontières, plus de policiers qui pourraient patrouiller et être plus rapidement sur les lieux si le passage d'immigrants ou le passage clandestin de drogue est signalé. Donc finalement, c'est une solution assez basique, mais assez partagée par les gens qu'on a pu rencontrer sur place. Et puis sinon, il y a une autre solution, c'est la solution un peu plus moderne, de l'électronique. C'est-à-dire qu'on a rencontré un des voisins de Rusty, qui était donc exactement vivant dans la même configuration, et qui lui disait qu'il fallait construire un mur électronique avec en fait des capteurs et des caméras qui pourraient analyser en temps réel tous les mouvements à la frontière.
Alors vous avez rencontré aussi un certain Larry Willis, un retraité qui vit dans une résidence près du Rio Grande, le fleuve qui sépare, vous nous l'avez raconté, les deux pays. Dans quelle situation se trouve cette résidence de retraité ?
Alors Larry, comme tous les autres résidents de cette résidence assez privilégiée, il est pas très content puisque il vit dans une résidence pour retraités où il y a un golf qui est charmante. C'est vraiment, il passe une retraite tranquille là-bas depuis 10 ans. Il y passe l'hiver, il joue au golf, il est ravi.
Je vous vois venir.
Mais voilà, il se trouve que le mur qui doit être construit devrait couper la résidence en deux.
Et le golf aussi, donc.
Et le golf en deux.
Donc, comment on va faire pour aller du trou 14 au trou numéro 15 quoi.
Et un peu d'escalade.
Voilà, c'est facile. Voilà,
il y a 15 trous qui vont se retrouver du mauvais côté, c'est-à-dire côté sud, côté proche du Mexique, de la barrière. Et puis il y a aussi la moitié des habitations qui vont se retrouver séparées du reste. Et donc. Entre la barrière et le Mexique.
Alors, il est républicain aussi, Larry Willis ? Il est fâché ?
Il est ultra-républicain. Il reste favorable à Trump malgré tout, puisque de toute façon, il déteste les démocrates. Mais là, ce projet de mur, ça ne l'arrange quand même pas. Et puis, il pourrait même perdre de l'argent. Et donc, il envisage à ce moment-là même de déménager, d'aller poursuivre sa retraite ailleurs.
Ah oui, carrément.
Si on s'appuie sur le précédent, donc la première barrière, on va dire, métallique, construite sous George Bush, est-ce que ça avait eu un impact sur les migrants, la migration clandestine et le trafic de drogue, puisque c'est les deux objectifs de Trump aujourd'hui?
Alors, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Ça a quand même eu un petit impact, c'est-à-dire que là où la barrière a été le plus fermement établie, notamment en Californie, ça a un peu ralenti le passage des migrants qui sont plutôt passés du coup par les États d'à côté, donc plutôt par le Nouveau-Mexique, l'Arizona ou le Texas. Mais le problème de ce genre de projet-là, c'est que il faut qu'il n'y ait pas du tout de trou pour que ce soit éventuellement efficace. Mmh. Et même quand elle est pas présente, cette barrière, on a vu qu'il était très facile de la surmonter ou de même de passer de la drogue entre ces barreaux.
Alors, des trous, des zones inconstructibles, des déplacements de frontières, un coût exorbitant va découvrir toutes les difficultés auxquelles Donald Trump doit faire face. Ce sera après les infos sur RTL. C'est pas gagné pour Donald.
Non, et puis dans notre seconde heure de curiosité, on vous emmène au pays des dragons. Pourquoi les humains ont-ils inventé ces monstres? Comment sont-ils représentés sur les 5 continents? Quelle place ont-ils aujourd'hui dans l'industrie du divertissement? Réponse tout à l'heure vers 21h20 sur RTL. Allez, tout de suite, c'est l'heure des infos. RTL, il est 21h.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à vous les curieux. Alors si vous arrivez juste maintenant à 21h, ne soyez pas déçus. Il reste une heure d'histoire à vous raconter. Des révélations, des destins et même des dragons.
Mais oui, ils sont monstrueux, effrayants, moustachus et mal embouchés. Mais
moustachus?
Qui donc? Ben oui, une petite moustache. Enfin certains. Alors, en tout cas, on voudrait savoir qui les a inventés à l'occasion d'une expo spectaculaire qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. On plonge dans leur monde imaginaire. Vous allez voir, il va falloir s'accrocher.
Et tout de suite, on continue d'arpenter oui. Le mur de l'absurde.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On attend d'une minute à l'autre, on l'a vu dans le flash de Julien Cély, la décision de Donald Trump. Va-t-il se retirer? Va-t-il retirer son pays, les États-Unis, de l'accord de Paris sur le climat ou pas? On le saura, mais en tout cas, nous, on continue de parler de son autre projet, son autre ambition, la construction d'un mur à la frontière américano-mexicaine. C'est le mur de l'absurde, titre du dossier du Parisien Magazine aujourd'hui en France, et c'est le reporter Stéphane Loignon qui nous en parle. Construire un mur de 3200 km de long, donc c'est toute la frontière, 9 mètres de hauteur. Mais il y a pas mal d'obstacles à franchir avant de le construire, ce mur pour Donald Trump. Déjà, d'un point de vue économique, ça va coûter combien cette affaire?
Alors là, c'est un peu le mystère, parce que suivant ce qui est choisi, la taille du mur, là, donc sa largeur, la vraie longueur du tracé, ça peut changer du tout au tout. Et donc là, pour l'instant, on a des estimations qui sont très partisanes. Les républicains, de leur côté, disent que ça va coûter entre 10 et 12 milliards de dollars. Les démocrates, eux, disent que ça va coûter 67 milliards de dollars.
Qui va payer?
Alors ça, justement, Donald Trump a promis pendant toute la campagne que ce seraient les Mexicains qui allaient payer ce mur. Les États-Unis ne débourseraient pas un sou, etc. Évidemment, dès qu'il a été élu, le président mexicain a tout de suite dit pas question que le Mexique paye quoi que ce soit. Ce
qui n'était pas surprenant,
pas très surprenant.
Et du coup, qui va le financer?
Et ben du coup, donc ça va être les contribuables américains sans doute qui vont le financer, à moins que Trump trouve une manière un peu détournée de procéder, c'est-à-dire de taxer par exemple les transferts d'argent entre Mexique et États-Unis, plutôt entre États-Unis et Mexique, donc les immigrés mexicains qui vivent aux États-Unis, qui envoient pas mal d'argent à leur famille au Mexique. Voilà, il y a l'éventualité d'une taxe qui pourrait contribuer au
pour que les Mexicains payent au final quand
faire
même.
Faire payer quand même les Mexicains, mais si ça se trouve des Mexicains qui sont en fait devenus des Américains.
Ouais. Pourquoi vous dites que ce mur est absurde?
Alors, ce mur, il est absurde parce qu'il est très difficilement réalisable. Il y a beaucoup d'endroits où il est inconstructible. En plus, on a vu par le précédent de la barrière que souvent ce genre de procédé n'était pas efficace, puisqu'ils ont trouvé toujours des moyens détournés de contourner l'obstacle. Donc, soit de le gravir directement, là par exemple, la barrière, il y a des gens qui l'escaladent, il y a des gens qui mettent des échelles, soit de le surmonter par exemple avec des petits. Il y a des gens qui utilisent des avions pour envoyer de la drogue de l'autre côté. Mmh. Et puis, il y a toujours des trous, puisqu'effectivement, il y a ces zones qui ne sont pas constructibles. Et après, c'est absurde aussi parce que le coût de ce projet par rapport à son efficacité est vraiment complètement délirant.
Il y a un financement qui doit être voté, j'imagine.
Voilà,
il
ne
va pas se lancer tout seul, Donald Trump, avec sa petite truelle.
Effectivement. Donc, le plus probable, c'est que le Congrès alloue un budget à la construction du mur. Le problème, c'est que les Républicains n'aiment pas trop les dépenses publiques. Normalement, ça va contre leur politique. Et donc, ça va être très difficile pour Trump de faire voter au Congrès un gros budget pour le mur. Là, pour l'instant, il a présenté dans un premier projet de budget, là, fin mai, en allouant une enveloppe d'1,6 milliard pour le début du mur. Mais avec ça, il va peut-être construire une dizaine de kilomètres, mais il n'ira pas plus loin.
Alors, je rappelle, Stéphane Loignon, que vous êtes allé au Texas à la rencontre des Américains. Les premiers concernés, ce sont les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet de mur version Trump?
Alors, bon, évidemment, c'est toujours un peu difficile pour eux de s'exprimer officiellement, mais on a quand même réussi à discuter avec un policier du comté qui était chargé de surveiller la frontière. Il était posté dans un parc à regarder le Rio Grande et puis les Mexicains qui, de l'autre côté, se baignaient et puis pour certains, hein, pour étaient susceptibles de traverser. Et donc lui nous a dit, non mais ce mur, de toute façon, il restera toujours des trous, donc ça ne servira à rien.
C'est-à-dire qu'il y a des zones, parce que si je me fais l'avocat du diable, vous dites il y a des trous aujourd'hui, parce qu'il y a 1000 km de barrière métallique qui fait 5 mètres de haut. Mais si on construit effectivement 3200 km d'un mur qui fait 9 mètres, ce sera plus possible de passer, donc ce sera efficace.
On pourrait, oui, malheureusement, c'est incroyablement difficile de construire 3200 km de frontières, parce qu'il y a des zones, j'en ai vu, où ce sont des marécages. Donc si vous construisez un mur là, il va tout simplement s'enfoncer, basculer. D'accord. Il y a d'autres zones qui sont des parcs naturels, magnifiques, avec des canyons, c'est sublime. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ravager le paysage pour construire ce mur. Et il y a d'autres zones qui sont des réserves indiennes aussi. Donc là, il y a des lois, en fait, qui protègent normalement les réserves indiennes. Il y a des Indiens, notamment en Arizona, qui ont le droit de passer d'un côté à l'autre de la frontière sur leur territoire sacré. Et là, eux sont très opposés, par exemple, à la construction d'un mur qui briserait en deux leur territoire.
Donc la promesse de Trump, elle est intenable, en fait.
Elle est intenable. Mm.
Sans compter aussi les catastrophes climatiques, ça pourrait gêner ou provoquer ?
Voilà, parce que si vous construisez, par exemple, un mur dans cette zone qui était un peu marécageuse, imaginons que vous arriviez à le faire tenir, là, ça fait comme un barrage. Et s'il pleut énormément, ça peut créer des inondations, ça va inonder toute la zone. Et puis, ce qui est encore plus amusant, encore plus paradoxal, c'est que vous pouvez même, en créant ce genre de barrage, décaler le lit du Rio Grande, qui est la frontière officielle entre les États-Unis et le Mexique. Et à ce moment-là, si vous décalez le lit du Rio Grande, vous décalez la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Donc le mur est plus au bon endroit.
Voilà, le mur est plus au bon endroit et puis les États-Unis pourraient perdre du territoire.
Est-ce que ça fait débat aux États-Unis, cette construction du mur ? Est-ce que ça fait débat seulement entre les démocrates et les républicains, mais aussi au sein des républicains ?
Moi, j'ai l'impression que tout le monde espère que ça ne va pas se faire. C'est-à-dire que les républicains eux-mêmes, pour la plupart, ils soutiennent la volonté de faire quelque chose, faire un mur, mais bon, on sent qu'ils essayent toujours un petit peu d'expliquer qu'il y a d'autres types de protection possibles, notamment plus de policiers ou ces fameux murs électroniques dont on a parlé. Et je pense que personne n'est vraiment décidé à construire 3200 km de murs en béton.
Merci beaucoup Stéphane Loignon. Le mur de l'absurde, cet article est publié dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France, à découvrir demain. À très bientôt et
à
merci.
Très bientôt. Merci, à vous.
Merci Stéphane, à très bientôt. Allez, tout de suite, on découvre un monde imaginaire sur RTL, celui des dragons. Bonsoir Frédéric Canard.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous Merci. Êtes le concepteur d'une expo qui vient de démarrer Porte de Versailles à Paris. Alors, j'imagine là que je pousse la porte, que la porte s'ouvre. C'est quoi ma première impression visuelle en arrivant dans le hall de cette exposition Dragonland?
Alors, pour commencer, vous avez déjà une deuxième porte qui, elle, est un peu plus scénarisée. Ouais. Une vraie porte en bois, métal, avec des anses en dragon, etc. Ouais. Et votre première salle et première visite, c'est une petite scène de cinéma qui dure 4 minutes 30 et qui est une entrée un peu, entrée en matière un peu onirique, qui vous explique ce qu'est un dragon avant d'aller plus dans le dur.
Et ensuite, on va découvrir des dizaines de dragons, c'est ça, grandeur nature, si j'ose dire.
Alors oui, le terme faisait beaucoup rire au début, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on les imagine tout de suite énormes.
Bah oui.
Et effectivement, le plafond de la salle est à 4,50 m et il y en a un certain nombre qui vont le chatouiller. Donc oui, il y a une trentaine de dragons en deuxième partie qui sont animés et qui sont de taille assez conséquente.
Les dragons monstres des légendes et des plus grands succès de l'héroïque fantasy, on vous raconte leur histoire sur RTL.